Une histoire particulière. Le 25 novembre 2019, Jean Morel, âgé de 97 ans, nous a quittés. Mais qui parmi vous se souvient de Jean Morel ? Il était l'un des derniers survivants du commando Kieffer, cette unité de combat formée de 177 soldats français qui débarquèrent à Ouistreham le 6 juin 1944. Dans un article du journal France paru le 22 juin 1944, le journaliste écrivait « Nous dirons leur nom, un jour, bientôt ». Nejma Bouakra et Julie Bérissi rendent aujourd'hui hommage aux derniers survivants dont j'ai l'honneur de prononcer les noms, Hubert Faure et Léon Gauthier.
De la flotte en l'espace de sur ceux qui tumultent à l'envers.
Oui, ça a aidé bien.
Ça nous a aidé. Hein. Alors la lame nous prenant nous a amené, moi pour ma part, moi elle m'a bien donné la main. Hein. Et là qu'on tumultait forcément. Ça ceux-là, hein, mon pote.
Sword Beach, 6 juin 1944.
Il y a le drapeau des États-Unis à l'ouest. Il y a le drapeau du Royaume-Uni dans la partie est, et au milieu des deux drapeaux britanniques, il y a un drapeau canadien.
Jean-Dominique Merchet.
Avec la feuille d'érable. En fait, il n'y a pas de drapeau français, parce que les Français n'étaient pas, à la part ces 177 commandos de Kieffer, n'étaient pas très présents dans le débarquement. Alors, il y a un petit drapeau français, effectivement, qu'on peut rajouter pour faire joli, mais 177 sur 150 000, c'est vraiment pas grand-chose. Les Français le savent, qu'ils ont joué un rôle, je dirais même pas d'appoint, un rôle absolument... On aurait pu se passer des Français pour le débarquement, voilà, pour dire les choses. Bien des années plus tard, et je dirais presque il y a une quinzaine d'années, ce mythe du commando Kieffer va émerger, se construire et prendre énormément de place. Et au fond, c'est un mythe de compensation. On compense en glorifiant ces 177 hommes l'absence de la France le 6 juin 44. Donc, Kieffer, c'est le rattrapage de ça.
Ils n'étaient peut-être pas nombreux, mais ils avaient choisi la France libre. L'histoire d'une France sauvée par d'autres, les alliés, honteuses, ayant plié le genou à terre, ce n'est pas leur histoire, puisque eux refusent. Certains n'ont pas entendu l'appel du général de Gaulle, ils étaient déjà en route. Ils n'ont pas attendu qu'on vienne les chercher pour s'engager, ils ont rejoint spontanément les côtes anglaises. Le commando Kieffer est le seul bataillon français du jour du débarquement. Cela suffit presque à fabriquer une légende en soi. Ils sont 177, le front haut, le menton dur sous le béret vert, ultra exercé pour une opération spéciale, coup de poing. Ils ne connaissent pas encore les bisbilles entre Roosevelt, Churchill et De Gaulle. Roosevelt qui aurait bien vu le général gouverneur de Madagascar afin de court-circuiter ses ambitions pour la France. De cela, ils ne se doutent pas. Ils préfèrent l'action à la politique. Et d'ailleurs, aucun ne fera de grande carrière militaire ou civile. Pendant 50 ans, on a presque oublié qu'ils étaient 177, avec leur visage de môme et leur nom parfois difficile à prononcer. Les 177 visages du commando Kieffer. Épisode 1, une légende au pied d'argile.
Les Français ont bien compris, le savent, l'ont vu, ils ont vu le jour le plus long, ils ont vu le soldat Ryan un peu plus tard, une autre génération. Ils savent bien que le débarquement, c'est d'abord l'affaire des Alliés, et surtout des Américains d'ailleurs. La mémoire collective garde plus le rôle des Américains, Omaha Beach pour aller vite, que des Britanniques qui étaient plus nombreux le jour du débarquement. Mais l'idée, le mythe comme ça, c'est les Américains qui débarquent. C'est hollywoodien le débarquement du 6 juin 1944. D'ailleurs, regardez, on emploie le mot le jour le plus long pour parler de débarquement. Le débarquement, c'est une affaire hollywoodienne. D'abord le jour le plus long, ensuite le soldat Ryan. Le soldat Ryan, tout le monde, tout le monde qui est allé au cinéma, qui s'intéresse un peu à ça, a en mémoire les premières images, à la fois les premières images au cimetière de Colville, et puis le retour brusque comme ça dans la barge de débarquement, où on voit, alors là, pour la première fois, ce que signifie un débarquement quand on se fait réellement tirer dessus avec des cadavres, avec des gens déchiquetés, avec des gens qui vomissent, avec des gens qui ont peur, avec des gens qui meurent. Ce qu'on ne voit jamais dans le jour le plus long. Le jour le plus long, c'est propre. Un débarquement, comme toute opération militaire, c'est, pardonnez-moi l'expression, dégueulasse.
J'ai besoin de te dire ce soir que je crois en toi passionnément, absolument. Il ne s'agit pas seulement de ta conduite au feu. Il s'agit de l'estime que tu avais des meilleurs de tes camarades et de ton autorité morale. Ne crois pas que je me laisse bluffer par tes faits d'armes, dont d'ailleurs tu ne parles jamais. Je pense au caractère que tu as montré. C'est ce qui te classe, mon petit Guy.
Georges Bernanos s'adresse durant toute la guerre ainsi à son neveu, Guy Hattu, fervent patriote.
La paix n'est valable et ferme que si la guerre a été menée loyale. C'est la loyauté morale. La loyauté réelle consiste à ne pas commettre le mensonge qui consiste à faire la guerre comme si c'était la paix. Le malheureux y perdrait la tête. J'ai bien le droit d'y perdre la mienne. J'ai 29 ans.
Et le voilà. Le voilà, le béret vert que j'ai retrouvé. Et alors c'est amusant parce que à l'époque...
Jean-Pascal Hattu.
Quand j'étais petit, il traînait dans l'appartement. Et je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être, j'avais 10 ans, et je me déguisais avec, et j'allais dans des anniversaires avec le béret, et je ne comprenais pas à quel point ça pouvait être un peu un sacrilège, mais voilà.
Et vous ne portiez pas par contre...
Non, je ne portais pas cette médaille.
Cette médaille.
Cette médaille qu'il avait sur son uniforme, une médaille de commando. Plutôt un insigne, et puis des jumelles aussi, ces jumelles qu'il avait sur lui pendant le débarquement, dans une sacoche bien ancienne, et alors cette gourde aussi, qui est en métal, qui prend la forme de la poche, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, peut-être un peu d'alcool pour les moments inquiétants, voilà, il avait ça donc dans sa poche, d'uniforme, je pense qu'ils l'avaient tous, elle est un peu cabossée.
Jean-Pascal, vous découvrez l'histoire de votre père un peu tard.
Oui, tard, parce que mon père avait beaucoup de mal à parler de sa guerre, parce que c'était à l'époque une omerta de parler de la guerre, parce que voilà, c'était une génération qui ne parlait pas beaucoup. Et forcément, moi, à l'âge où il est décédé, j'avais 15 ans. Donc, j'avais pas la curiosité de lui poser des questions sur sa guerre. Et puis, je n'avais pas, quoi poser comme question. Et puis, lui, je pense, s'est sûrement dit que ça ne m'intéressait pas.
C'était un taiseux, votre père ?
Oui, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui, je pense, parlait avec ses amis, les amis de son âge, les amis avec qui il avait fait la guerre. Je me souviens de discussions donc, qu'il y avait assez houleuses d'ailleurs autour du général de Gaulle, autour de la guerre, autour des commandos. Mais voilà, dès qu'on était en famille, c'était pas un sujet dont on parlait. Il était plus rassuré d'en parler avec des gens qui avaient vécu ça avec lui plutôt qu'avec nous qui, bah, finalement, qui ne pouvions pas comprendre ce qu'il a vécu, quoi. Et Dieu sait s'il a vécu des choses fortes, des déceptions... Le drame de la guerre, quoi.
On parle du jour le plus long, mais ce fut d'abord une courte nuit.
C'est vrai que déjà on les réveille à 4h30 du matin, donc ils vont débarquer. Alors beaucoup disent autour de 7h55, donc ils sont réveillés assez tôt. Ils ont le stress qui a eu le temps de monter entre 4h30 et on va dire 7h30.
Benjamin Massieu.
Et c'est vrai que la nuit a été très compliquée parce que la mer a été houleuse. Donc on vomit, certains vont passer la traversée sur le pont, dans le froid, tellement ils sont malades, dans la cale où il y a une odeur de mazout, etc. Donc la nuit était très courte.
Ce sont de jeunes gens qui viennent libérer la France, ils viennent de Corse, ils viennent de Tunisie. Certains sont des juifs polonais qui ont fui les persécutions. Qui sont-ils ?
Il y a beaucoup de Bretons. Alors, on a très longtemps dit, les vétérans, certains, notamment les Bretons, ont contribué à faire croire qu'il y avait la moitié de Bretons. En fait, quand on pointe un par un, il y a à peu près un quart de Bretons sur l'unité. Donc c'est le premier contingent. Il y a même les frères Vourges, par exemple, qui sont issus d'une famille bretonne entièrement dévouée à la résistance. Les parents étaient dans la résistance, les frères, les sœurs. Et ils sont deux du commando de frères, dont Guy Vourges, qui est le commandant de la troupe 1.
Comment s'engage-t-il ? Certains sont déjà résistants, viennent déjà de filières.
Il y a des parcours assez divers. Hein. Certains ont déjà servi dans la résistance. Un des frères Vourges participe à un réseau d'évasion d'aviateurs alliés. Et au moment où les Allemands sont trop sur ses trousses, il va décider de partir pour l'Angleterre. Et d'ailleurs, dans son réseau d'évasion, il était beaucoup avec un de ses voisins qui va se retrouver avec lui au commando. On a des itinéraires très différents, il y en a qui traversent la mer, donc les Bretons, les Normands vont essayer de prendre une barque et puis de traverser la Manche avec quelquefois des itinéraires assez incroyables. D'autres vont choisir l'itinéraire par l'Espagne, c'est-à-dire qu'ils vont traverser les Pyrénées. Alors pour beaucoup, ils vont être capturés par les franquistes, ils vont passer par des camps, notamment le camp de Miranda, où beaucoup vont se connaître là-bas, vont se croiser avant. Et puis après un certain temps, ils finiront par être libérés, à pouvoir rejoindre l'Angleterre. On a des parcours assez divers. Certains étaient dans l'armée d'Afrique. C'est le cas de Léon Gauthier, de Lofi. En 1942, ils ont tout un itinéraire jusqu'en Syrie, au Liban. Et au moment où on dissout leur bataillon, ils vont avoir la possibilité, et beaucoup vont le faire, de rejoindre les commandos.
Certains viennent des brigades internationales.
Pas beaucoup, mais c'est notamment le cas du docteur Lyon.
Robert Lyon,
qui est le médecin de l'unité et qui a un parcours, notamment il a été communiste, donc avant de rejoindre les commandos, lui était prisonnier dans le sud du Sahara par les vichistes.
Il y passe plus d'une année, je crois, dans les prisons algériennes, dans ce camp d'internement.
Un an et demi à peu près. Et il sera libéré au moment où les Alliés débarquent en Afrique du Nord. Et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir rejoindre les commandos.
Robert Lyon, juif, communiste, médecin, brigade internationale. C'est un parcours héroïque déjà avant les commandos.
Oui, alors c'est, on pourrait dire presque à l'image d'un Malraux, c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup engagé contre le fascisme, contre le nazisme, et il s'engage pas seulement là pour libérer la France, parce qu'on va dire, c'est la suite d'un long combat idéologique qu'il a commencé à mener dès les années 30.
Et pourtant, ce n'est pas forcément un homme qui a du goût pour les armes.
Il était presque même, on pourrait dire, antimilitariste. Hein. Pour lui, prendre les armes, c'était pour servir une cause. C'était pas forcément un militaire chevronné, un fanamili, comme on dit aujourd'hui.
Il y a de tout dans ce commando.
Il y a absolument de tout. Il y a toutes les opinions politiques. Il y a des communistes, il y a des gens de droite, de gauche, voire certains d'extrême droite. Il y a vraiment un peu de tout.
Des monarchistes.
Voilà, il y a Maurice Chauvet, donc, qui a dessiné l'insigne des commandos, qui sert encore aujourd'hui au commando marine. Lui était un royaliste, et d'ailleurs, il a inséré une fleur de lys sur cet insigne.
Qui sont les hommes qui composent ce commando ? Ils sont jeunes, pour la plupart ?
Oui, le plus jeune, je crois que c'était Gwenaël Bolloré, de la famille Bolloré de l'homme d'affaires. Je crois qu'il a rejoint la France libre à 16 ans. Il s'est évadé sur un voilier depuis la Bretagne et il avait 16 ans. Mais oui, ce sont des jeunes. Mais vous savez, d'une certaine manière, c'est la règle de tous les combats. Regardez aujourd'hui, les guerres d'aujourd'hui, ce sont des jeunes soldats qui les mènent. Et en face d'eux, les gens de Daesh sont des jeunes aussi. Pourquoi s'engagent-ils ? Pourquoi ce sont des jeunes ? C'est toujours comme ça. C'est une affaire de jeunes, la guerre. Les équipages des bombardiers qui allaient bombarder l'Allemagne... La moyenne d'âge à bord, c'était une vingtaine d'années. Le pilote, qui était en général le commandant de bord, il avait 23-24 ans. C'est ça la guerre. C'est des mômes qui font la guerre. Peut-être pour ils la font sous les ordres et pour des gens qui ne sont pas jeunes. Mais les gens qui y vont vraiment, en général, ils sont pas bien vieux. Sauf Kiefer. Kiefer est vraiment un vieux. Il a plus de 40 ans. Et c'est pas du tout un âge pour aller faire ce genre de sortie balnéaire. Personne aujourd'hui n'imagine qu'un chef de commando à 43 ans, je crois, lors du débarquement, puisse faire ce genre de choses. À cet âge-là, on est soit à la retraite, soit dans un état-major.
Dans le tout premier groupe de volontaires que reçoit Kiefer en janvier 1942, il y a un tiers de punis, puisque finalement, Il est le premier à mettre en place cette unité, donc on lui donne ce qu'on trouve comme homme. Et beaucoup étaient des indésirables, en fait, dont on ne savait pas trop quoi faire. Et lui, en leur donnant une mission, en leur donnant leur chance, un objectif, il va réussir à les remettre dans le droit chemin.
En gros, on préfère aller au commando plutôt que de se retrouver au cabanon, pour certains.
Voilà, c'est ça. Beaucoup vont faire ce choix. Et puis, s'ils ont été indisciplinés, c'est que certains aussi s'ennuyaient. Avec le commando, là, ça y est, ils ont de quoi faire, ils ont un objectif, ils espèrent se battre.
Je vais pas vous dire le nom, mais nous avions un commando, par exemple, voyez-vous, là, qui avait tatoué pas de chance sur le front. Là. Et un jour...
Pas de sang.
Il avait marqué tatoué sur le front, pas de chance.
Léon Gauthier.
Alors un jour, le colonel Dawson, que nous avons en photo ici, là, hein, on voit, voit quelque chose qui dépasse de son béret, là, il lui lève le béret, il voit pas de chance. Il dit, les commandos, ce sont des gentlemen. Alors ça, je veux pas de ça. Vous le faites enlever, là. Et Robert Lyon l'a opéré pour enlever les à froid. Il l'a opéré, oui. Je n'aurai pas le nom, bien sûr.
Il y avait des durs, alors. Il y avait d'anciens légionnaires aussi.
Moi, je faisais pas partie de ceux-là. J'étais un soldat normal.
Pourquoi vous vous êtes engagé?
À l'époque, on fait partie d'une époque de jeunes qui ont été élevés juste après la guerre 14-18. Vous voyez, moi, je suis né en 22. Bon, ben, dans les familles, tout le monde parlait de cette dernière guerre. Tout le monde avait perdu quelqu'un, tué, un prisonnier, sur ce choix. Et donc, on apprenait un peu la haine contre les Boches.
Vous étiez patriote? Surtout tous, patriote?
Tous. Ben c'est ce qui les faisait volontaires pour les commandos, c'est le patriotisme.
Et le nazisme?
Le nazisme, on avait déjà entendu parler, déjà, vous savez, déjà, même à la déclaration de la guerre, déjà, on entendait parler du nazisme. Hein, vous savez qu'Hitler était déjà banni dans les esprits avant la déclaration de la guerre. Hein. On n'a pas compris pourquoi ces Allemands ont suivi cet homme qui était un dictateur, en fait. Là, hein. On ne comprenait pas que le peuple allemand pouvait suivre cette personne. Là. L'Allemand qui avait suivi Hitler, c'était un nazi pour nous. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, quand la guerre s'est déclarée, beaucoup de jeunes de mon âge, qui avaient 17 ans, se sont engagés aussi.
À l'appel du général de Gaulle, après?
À l'appel du général, je n'ai jamais entendu, moi. Non, pour une bonne raison, j'étais déjà dans la marine nationale, mon bateau est arrivé en Angleterre, donc j'ai débarqué, on s'est mis dans un camp. Dans ce camp-là, on avait le droit de sortir. Ensuite, j'ai rencontré les jeunes Anglais qui ont mis une radio un jour, là, et qui nous apprenaient que De Gaulle formait une armée qui allait se combattre auprès des Anglais, mais sur le pavillon français.
Vous êtes enthousiaste?
Oui, on a été pas mal à partir. Moi, j'ai rejoint De Gaulle le 13 juillet 40.
Quand mon père est arrivé à Londres, il s'est rapproché... alors qu'il voulait se rapprocher du général de Gaulle et voir le général de Gaulle, quelqu'un lui a mis un peu le grappin dessus, c'est l'amiral Muselier, qui faisait partie de la gauche, la gauche gaulliste, ce qui n'est pas rien, puisqu'il était responsable des forces navales françaises, des forces françaises libres, et donc il est rentré dans le milieu politique londonien. Et il s'est vraiment rapproché, lui, comme l'amiral Muselier, des Anglais. Et donc, mon père est rentré dans les services secrets britanniques. Et les services secrets britanniques lui ont confié la mission de créer une radio qui s'appelle Radio Gaulle et qui émettait à 40 km de Londres environ, dans un vieux château réquisitionné... De Lord Bradford, du duc de Bradford. Et de là, il faisait croire aux Allemands qu'ils émettaient de France. Et c'est vrai que j'ai retrouvé dans des cartons des centaines et des centaines et des centaines de feuillets qui correspondaient aux émissions chaque jour. Et là, j'en ai une devant les yeux. Par exemple, voilà, il disait « Français, les Allemands ayant rompu ce matin le dernier vestige français. Apparent de l'état.
Les Allemands ayant rompu ce matin le dernier vestige apparent de l'état d'armistice, la France se retrouve comme il y a deux ans en état de guerre avec l'Allemagne. L'armistice que nous n'avions jamais reconnu indiquait la suspension des hostilités. Hitler a mis fin ce matin à cette suspension des hostilités en donnant l'ordre à ses troupes de pénétrer officiellement dans la zone non occupée.
Les commandos ayant été les premiers à fouler la plage, enfin le sol français, enfin après la 6e Airborne qui a fait son repérage et ses attaques dans la nuit, il est évident qu'il fallait tuer du Bosch, comme il disait, hein, il fallait tuer du Bosch, c'est-à-dire passer la plage et rentrer en France, quoi. Les commandos n'ont pas la manœuvre et l'organisation pour faire prisonniers. Effectivement, il faut qu'ils avancent. Il faut qu'ils avancent et il faut qu'ils passent les casemates et rentrer à l'intérieur des terres au plus vite.
Qu'est-ce que c'est que le commando Kieffer? Le commando Kieffer, c'est un commando d'assaut. C'est-à-dire, c'est un commando, c'est un groupe d'hommes particulièrement entraînés pour faire des missions dures et ponctuelles. C'est-à-dire qu'on lui demande, on l'a formé pour ça, d'être capable de pénétrer le mur de l'Atlantique à un endroit très précis.
Les blessés, c'est pas notre problème. On a eu l'heure de penser s'il y a des blessés. Le problème, vous, c'est de prendre le blocus en face. Hein, les blessés, il y a le corps médical qui suit, qui s'en occupera.
Et vous ne vous retournez pas?
Non, non. Oh non, finalement, faut faire l'attaque comme on veut. Nous, on a eu un débarquement qui est différent de ce que je vois, par exemple, des Américains, ou ainsi de suite. Car nous avions des ordres, nous, hein, de courir sur la plage le plus vite possible jusqu'au blocos. Car une fois que vous êtes contre les murs de blocos, hein, vous êtes à l'abri. Vous voyez, il y a juste les meurtrières du blocos ne peuvent plus vous atteindre. Plus vous approchez du blocos, plus le champ de tir se restreint.
Ils vont débarquer non loin d'un blocus allemand, qu'on voit près d'ici, et la barge de la troupe 1 va se retrouver prise sous le feu, en fait, de ce canon allemand qui va tirer dessus. Il y a les mitrailleuses allemandes aussi qui sont là. Donc le canon allemand va détruire les rampes de la barge, donc les commandos se trouvent bloqués finalement sur leur barge. Certains vont sauter à l'eau, alors ils ont de l'eau jusqu'au cou, ils sont obligés de lever leur fusil en l'air pour ne pas qu'ils deviennent inutilisables.
Certains sont
tellement petits qu'ils ont un peu de mal, ils doivent se faire aider par leurs copains, et donc ils doivent atteindre le sable et ensuite courir pendant 150 mètres sous le feu allemand. Donc en haut, il y a une colonie de vacances où ils vont devoir se rassembler, poser leur sac et puis partir au combat.
La plage n'a pas été déminée.
La plage aurait dû être déminée, en fait. Il y avait une unité de Britanniques qui devait débarquer juste avant. Finalement, quand les commandos français arrivent, les mines sont encore là, les barbelés sont encore là, et il y a des corps un petit peu partout, il y a un char qui est en feu, c'est une vision un peu d'apocalypse quand ils arrivent déjà. Et la troupe 1 perd tous ses officiers, c'est-à-dire que tous les hommes se retrouvent sans personne pour les commander, ce sont les sous-officiers qui vont prendre le commandement.
Que s'est-il passé? Est-ce que tout d'un coup, ce commando devient de la chair à canon?
Ce sont des unités quand même assez spéciales, donc on les envoie pas non plus au casse-pipe, on va dire. Ce sont des hommes qui coûtent cher à former, mais c'est vrai qu'on leur avait annoncé que la plupart d'entre eux ne reviendraient pas. Donc il y avait de fortes chances que beaucoup ne reviennent pas. D'ailleurs, Kieffer leur a donné le choix avant le débarquement. Il leur a dit, il n'y aura peut-être pas 10 d'entre nous qui reviendront. Donc si vous voulez sortir des rangs, je ne vous en voudrais pas. Et ils sont tous restés, ils ont décidé de partir avec lui.
Est-ce que l'opération du commando Kieffer lors du débarquement est cruciale?
Cruciale, non. Non, d'abord c'est une opération où alors tout est crucial. C'est-à-dire, vous avez, il faut percer le mur de l'Atlantique, les défenses allemandes, qui sont quand même des défenses solides. Et donc, il y a quelques points forts, notamment le casino a été fortifié. Enfin voilà, le commando doit percer cet endroit. Donc le commando Kieffer participe à cette percée dans les premières heures du mur de l'Atlantique. Et effectivement, il va percer, puisque le soir même, il est installé à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Et en gros, ils rompent le combat dans la ville où ils seraient vers 11 heures. Donc ça dure 3 heures. Le bilan est mitigé. D'abord, c'est un succès parce qu'il n'a pas été repoussé. Mais personne n'a été repoussé ce jour-là. Le bulldozer était tellement puissant que tout le monde a pénétré. Il n'y a aucune plage où les gens étaient repoussés. Il y a eu beaucoup d'hésitations sur la plage d'Omaha pendant les premières heures. C'est pour ça que c'est la seule plage où les choses se passent réellement mal. C'est là qu'il va y avoir les morts. C'est pour ça qu'on parlera de Bloody Omaha, Omaha la sanglante. Sinon, en gros, quand même, l'arrivée est tellement massive et tellement puissante que les défenses allemandes sont bousculées. Alors, elles sont bousculées avec des épisodes contrastés. C'est pas, au fond, le commando, une structure d'infanterie légère, n'a pas les moyens de réaliser la mission qui lui est confiée. Et il doit faire appel à un char, à des blindés, parce que voilà. Et donc finalement, ils y arrivent, et puis dans fin de matinée, ils sont dégagés, et ils vont faire d'autres opérations. Donc oui, ils font partie du succès de l'opération. Mais dire que c'est un élément capital, non, absolument pas.
Pourquoi le commando Kieffer a-t-il été évacué de la geste gaulliste ?
Le commando Kieffer dont on parle est intégré dans un dispositif, dans une brigade britannique. Et elle n'est qu'un petit élément de cette brigade qui débarque. C'est pas du tout cette geste héroïque qui va effectivement faire les grandes heures du récit gaulliste dans les années 50, 60, de la 2e division blindée, la 2e DB du général Leclerc, qui commence avec ce serment de Koufra dans le sud de la Libye, très tôt, et puis qui débarque tard. Il débarque fin juillet, je crois, donc bien après, effectivement, le 6 juin, et qui va faire cette chevauchée fantastique vers Paris, qui libère Paris, et qui va ensuite à Strasbourg, et qui va au final jusqu'au nid d'aigle d'Hitler.
Que se passe-t-il après le débarquement ?
Effectivement, la guerre continue. Les Alliés ont débarqué, l'armée de Leclerc est en route vers Paris, Paris est libéré, mais pendant ce temps-là, le commando Kieffer continue sa route vers le nord et a pour mission de libérer l'île de Walcheren, en l'occurrence, et de mener une campagne extrêmement difficile, beaucoup plus violente, je pense, que la campagne de Normandie, parce que c'était un bastion nazi extrêmement organisé en Hollande.
Est-ce que le commando Kieffer va défiler lors de la libération de Paris ?
Ils ont fait un défilé, ils ont défilé, mais qu'en 46, sur le fameux défilé qu'on connaît de Leclerc et de Gaulle qui descendent les Champs-Élysées. Eh bien non, ils n'étaient pas là. Et je pense que, effectivement, pour mon père, ça a été assez difficile d'entendre parler de tout ça, de la division Leclerc qui descend les Champs-Élysées, une fois de plus, les honneurs, etc., et que finalement ce commando ait été un peu laissé pour compte. On a sous-estimé leur action. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que De Gaulle savait que ce commando faisait partie des commandos britanniques, et je pense qu'il avait, il était plus fier de l'armée de la France libre. Il voulait plus mettre en avant la division de Leclerc que le travail de 177 Français, qui pourtant ont été les premiers à débarquer et qui ont vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Et ça, je pense que mon père, comme beaucoup de commandos, ont eu un goût amer. Et quand De Gaulle a écrit ses mémoires, il cite, je crois, sur 3 lignes, le commando Kieffer. Et ça, je pense que ça a été une blessure pour mon père, ça c'est certain.
La suite de l'histoire des soldats du commandant Kieffer, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant 14h, préparez vos balais, potions magiques et vieux grimoires. Bernard Giraudeau vous offre la lecture de Harry Potter à l'école des sorciers. C'est la rentrée au collège Poudlard.